Laudetur Jesus Christus.
Condamnation unanime après le meurtre de 6 journalistes palestiniens dans la bande de Gaza par Israël. Nous y revenons juste après les titres. L'Europe suffoque et s'achève. Et de l'autre côté du globe, ce sont les inondations qui font des dégâts au Japon. Plus de 3 millions de personnes sont concernées par les ordres d'évacuation. Y aurait-il eu tentative de déstabilisation par des militaires au Mali? Les arrestations se multiplient ces derniers jours. Dans ce journal, nous irons aussi en Colombie. Miguel Uribe, le candidat à la présidentielle visée lors d'un attentat en juin, est finalement mort de la suite de ses blessures. Un assassinat révélateur de la violence politique dans le pays. Et puis enfin dans notre dossier, direction la Bolivie. La présidentielle aura lieu dimanche et pour la première fois depuis 20 ans, la gauche pourrait bien perdre le pouvoir.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. Les journalistes ne doivent jamais être pris pour cible en temps de guerre. C'est un cri de colère que lance le Comité pour la protection des journalistes. Pour la directrice du CPJ, la Jody Ginsberg, Israël s'est rendu coupable d'un crime de guerre en abattant 6 journalistes et caméramans palestiniens au cours d'un raid ciblé. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Les victimes ont été enterrées hier et les condamnations sont unanimes pour dénoncer un meurtre délibéré. Jean-Charles Puzolu.
Oui Marine, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, l'Union Européenne, Reporters sans frontières et bien sûr la chaîne Al Jazeera qui a perdu 5 collaborateurs dans le bombardement israélien de dimanche soir dénoncent une violation du droit humanitaire et une tentative désespérée de faire taire les voix qui dénoncent l'occupation. La chaîne Qatariote a perdu 10 de ses collaborateurs depuis le début de l'offensive israélienne en octobre 2023. Reporters sans frontières estime à près de 200 le nombre de journalistes tués dans la bande de Gaza. L'armée israélienne confirme avoir délibérément visé le journaliste Anas al-Sharif, qu'elle accuse d'être un terroriste du Hamas. Pour appuyer ses dires, Tsahal a rendu public un selfie du correspondant d'Al Jazeera avec des chefs du Hamas et un tableau montrant qu'il était salarié du mouvement entre 2013 et 2017. Selon des journalistes locaux qui le connaissaient, Anas al-Sharif avait effectivement travaillé au début de sa carrière avec un bureau de communication du Hamas. Son rôle était de promouvoir les événements organisés par le mouvement qui dirige la bande de Gaza depuis 2007. Reporters sans frontières dénonce de fausses accusations et un procédé déjà utilisé par l'armée israélienne pour justifier l'élimination de journalistes. En recevant la presse au tout début de son pontificat le 12 mai dernier, Léon XIV avait évoqué le courage des journalistes qui défendent la dignité, la justice et le droit des peuples à être informés, même en temps de guerre, disait-il, car, soulignait-il, seuls les peuples informés peuvent faire des choix libres.
Merci Jean-Charles Puzolu. Une nouvelle flottille chargée d'aide humanitaire prendra la mer depuis plusieurs ports méditerranéens à destination de Gaza pour briser le blocus israélien illégal. À son bord, humanitaires, médecins, mais aussi artistes. Le nombre de bateaux qui iront à Gaza n'a pas été précisé. En juin dernier, le voilier Madeleine qui tentait de briser ce blocus israélien par la mer avait été arraisonné par les forces israéliennes et les passagers expulsés. Plus de la moitié de l'Europe et du pourtour méditerranéen touchés par la sécheresse et cela depuis plus de 4 mois. C'est le chiffre le plus élevé depuis 2012 et le début de la collecte de ces données par l'Observatoire européen de la sécheresse. L'Europe de l'Est et les Balkans sont particulièrement concernés, également la Turquie. Plus de 60% du pays manque d'eau. Des changements climatiques dont les conséquences sont lourdes, on le sait, pour la faune et pour la flore. On apprend ce matin que les oiseaux tropicaux font partie des victimes. Leur population a reculé de plus de 30% entre 1950 et 2020. Aucune région du monde n'échappe à ces bouleversements du climat. Je vous propose de prendre la direction du Japon. L'archipel connaît des inondations records. Plus de 3 millions de personnes doivent évacuer. Les pluies ont déjà fait 4 disparus et de nouvelles alertes sont lancées ce matin. À Tokyo, Philippe Mesmer.
Mardi matin, l'agence japonaise de météorologie a émis des alertes au risque de glissement de terrain dans l'île de Kyushu et jusqu'au centre de l'archipel sur le littoral de la mer du Japon. Elle a dans le même temps abaissé les niveaux d'alerte en place depuis plusieurs jours à cause des précipitations incessantes survenues après plusieurs semaines de temps sec. La région la plus touchée est pour l'instant le Kyushu dans le sud-ouest. Là, la ville de Tamana a enregistré plus de 40 cm de pluie en moins de 12 heures et celle de Kumamoto, 36. Jamais il n'avait plu autant en si peu de temps. En une demi-journée, les deux villes ont subi le double de la moyenne de précipitations pour un mois d'août. À Kosa, un homme a été emporté par une coulée de boue sous les yeux de sa femme et de ses deux enfants. À Fukuoka, deux personnes ont été balayées par la soudaine montée des eaux. Le mauvais temps a obligé les compagnies ferroviaires à réduire, voire suspendre leurs services. Le Premier ministre Shigeru Ishiba a ordonné que tout soit fait pour évaluer les dégâts et répondre au mieux aux urgences face aux intempéries qui devraient durer au moins jusqu'à mercredi, le front pluvieux évoluant lentement vers le nord du pays. À Tokyo, Philippe Mesmer pour Radio Vatican.
En Côte d'Ivoire, plusieurs membres du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo inculpés pour actes terroristes. Ils sont accusés d'avoir mis feu à un bus et dégraté une voiture de police dans la commune de Yopougon. À deux mois de la présidentielle, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire de l'ancien président dénonce une opération d'intimidation et, je cite, un harcèlement judiciaire et politique. À noter qu'en Côte d'Ivoire, une chaîne de prière nationale pour la paix aura lieu du 15 au 25 août, une initiative du père Abbé Camp. S'agirait-il d'une tentative de déstabilisation au Mali? La question fait débat à Bamako. Plusieurs sources ont annoncé des arrestations de dizaines de militaires qui seraient mêlés à une tentative de putsch. Pour autant, aucune réaction pour l'instant du gouvernement malien. La correspondance régionale de Lamine Traoré.
Plusieurs soldats ont été arrêtés ce week-end dans la capitale malienne, ont annoncé des sources, et ce, après de nombreux recoupements. Ces sources évoquent plus d'une quarantaine de soldats interpellés. Officiellement, les autorités maliennes n'ont pas encore réagi sur l'affaire qui défraie la chronique. Le règlement militaire est clair. Ils ont voulu déstabiliser la transition et ils sont aux arrêts, a confié un officier supérieur proche du pouvoir à plusieurs médias. Parmi les soldats interpellés, au moins deux généraux. Le premier, le général Abbas Dembélé, bien populaire au sein des troupes. Il a été le commandant dans le nord du Mali, avant d'être nommé gouverneur de la région de Mopti, dans le centre du pays. Le second, Nema Sagara, général de brigade à l'état-major de l'armée de l'air, une des rares femmes militaires les plus haut placées dans l'armée malienne. Ouagadougou, Lamine Traoré pour Radio Vatican.
Déployer les militaires de la garde nationale pour nettoyer la ville des gangs, c'est la dernière décision de Donald Trump dans la capitale Washington DC. Alors que les statistiques officielles montrent une baisse de la criminalité à Washington DC, le président américain déclare invoquer une mesure qui l'autorise à prendre le contrôle de la police de cette ville qui a un statut particulier aux États-Unis. Donald Trump parle d'une anarchie complète et totale dans la capitale et promet de se débarrasser des bidonvilles. En Colombie, la violence politique frappe à nouveau. Le sénateur et candidat à la présidentielle Miguel Uribe est décédé hier à l'âge de 39 ans, deux mois après avoir été victime d'un attentat. Un drame qui rappelle les heures sombres de l'histoire colombienne et relance l'appel au dialogue et à la paix. La correspondance de Camille Bouju.
Après deux mois de lutte, la nouvelle est tombée. Miguel Uribe Turbay n'a pas survécu. Début juin, alors qu'il tenait un meeting dans un parc de Bogota, le sénateur de 39 ans avait été touché par plusieurs balles. Fils de la journaliste Diana Turbay, tué en 1991 lors d'une opération de libération, Miguel Uribe était candidat déclaré à la présidentielle de 2026. Figure montante de la droite colombienne, il prônait la sécurité, y compris par le port d'armes. Son décès envoie un signal inquiétant sur le climat politique qui entoure la prochaine présidentielle. La Colombie a une longue histoire d'assassinats politiques, de Jorge Gaetan en 1948 à Luis Galán et Carlos Pizarro à la fin des années 80. Aujourd'hui encore, menaces et attaques visent régulièrement élus et leaders locaux, surtout dans les zones du pays contrôlées par des groupes armés. Alors à moins d'un an du scrutin, la violence reste une menace bien réelle pour les candidats et un défi pour la démocratie colombienne. Bogota, Camille Bouju pour Radio Vatican.
Et avant de passer à notre dossier, notons que demain matin, en raison des températures très élevées à Rome, l'audience générale de Léon XIV n'aura pas lieu place Saint-Pierre, mais en salle Paul VI. Des écrans seront aussi installés dans la basilique Saint-Pierre pour suivre l'audience, où se rendra ensuite le pape pour saluer les fidèles. Dans notre dossier ce matin, direction la Bolivie, où l'élection présidentielle de dimanche se prépare dans un climat inédit. Après 20 ans au pouvoir, la gauche est en recul. En tête des sondages actuellement, deux candidats de droite, Samuel Doria Medina, mania de l'hôtellerie et de la restauration rapide, et Yorie Quiroga, président de la Bolivie de 2001 à 2002. Il faut dire que ces dernières années ont été difficiles pour la gauche et son parti principal, le MAS. Le président sortant, Luis Arce, accablé par les protestations sociales, a renoncé à se représenter, tandis qu'Evo Morales, à la tête du pays à trois reprises entre 2006 et 2019, aurait voulu se présenter, mais a été empêché par la limite des mandats. Il fait par ailleurs l'objet d'un mandat d'arrêt dans une affaire de traite de mineurs qu'il conteste. Alors comment expliquer ce recul de la gauche en Bolivie et sur quel sujet s'est fait la campagne présidentielle? Les réponses d'Élise Gadea, docteur en sociologie de l'IAL et chercheur associé à l'IFEA, l'Institut français des études andines.
Je crois qu'il y a pour moi deux principaux facteurs qui jouent effectivement. C'est l'inflation, le manque de dollars et du coup l'inflation galopante qui existe en Bolivie, en particulier au fait que le gouvernement du MAS finalement a des politiques très coûteuses de répartition sociale qu'on verrait mal finalement remettre en question, sans questionner finalement la légitimité du MAS au pouvoir. Et en partie liée à la dépendance effectivement du gouvernement et des politiques de la rente pétrolière et gazifière. Et puis aussi aussi des difficultés aussi de penser le MAS après Evo Morales. Luis Arce déjà avait été élu avec beaucoup moins d'avance que son prédécesseur à la présidence du pays. Et c'est vrai que Evo Morales reste très 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 présent sur la scène médiatique et sur la scène politique bolivienne. Et que finalement, ces luttes intestines au sein même du MAS contribuent beaucoup à diviser le MAS et donc à fragmenter finalement l'électorat de ce mouvement et de ce parti politique.
Aujourd'hui, quel est le poids et la popularité d'Evo Morales?
Il a toujours un poids très important. Il suffit finalement de regarder la presse bolivienne pour voir que même s'il n'est pas candidat, tout ce qu'il dit a un écho particulièrement important en Bolivie. Il ne faut pas oublier que le MAS est un parti qui regroupait finalement les indigènes, les travailleurs, les secteurs populaires, puis finalement qui a même à la fin été presque porté aussi par les anciennes élites économiques du pays. Et donc finalement, tous ces secteurs-là qui trouvaient une alliance finalement au sein du MAS sont de plus en plus fragmentés par un jeu politique pas toujours transparent d'Evo Morales. D'ailleurs, les discours et les prises de parole de l'actuel président, lorsqu'il a annoncé publiquement qu'il ne se présentait pas, il a directement, pratiquement, sans le nommer, bien évidemment, mais adressé la parole à Evo Morales en le suggérant d'arrêter finalement d'essayer de se représenter.
On a donc en tête de sondage un candidat de centre-droit et un candidat de droite. Quels sont les thèmes de campagne qui les différencient ?
Beaucoup les thèmes politiques qui vont avoir une importance dans le quotidien des Boliviens, puisque actuellement en Bolivie, il y a une rareté de l'essence, alors que paradoxalement, la Bolivie produit, a des réserves gazifères et pétrolifères. Une partie de l'élection va se jouer effectivement par rapport effectivement à la situation économique très tendue qui donne lieu évidemment derrière à des manifestations et puis à un quotidien particulièrement bouleversé et à une inflation galopante en Bolivie. Beaucoup de produits qui se consomment tous les jours en Bolivie, dont le prix a doublé dans les trois ou deux dernières années. Donc une partie effectivement des programmes vont se centrer sur effectivement cette difficulté d'obtenir des dollars et sur la rareté du gaz qui est liée à un manque de dollars dans les réserves boliviennes. Ce qui va beaucoup contribuer, ce qui contribue beaucoup justement à renforcer la droite, c'est bien évidemment la division même au sein du MAS. Et puis le fait aussi que le MAS, pendant énormément d'années, a saboté lui-même toutes les possibilités de d'autres partis politiques au sein même de la gauche. Donc il faisait figure de seule alternative face à la droite. Et là, actuellement, comme il y a différents courants au sein même du MAS, ça contribue bien évidemment à renforcer le gouvernement les gouvernements de droite. L'enjeu est plus là de mettre en avant finalement une possibilité de récupération d'une situation économique.
Comment lire finalement la situation à une échelle régionale?
Ces élections vont être très scrutées au niveau régional, dans le sens où effectivement il y a un basculement de certains pays dans des gouvernements d'ultra-droite finalement, et dans d'autres pays il y a au contraire un maintien ou en tout cas des gouvernements beaucoup plus progressistes. Donc en termes finalement régionales, la Bolivie là doit définir finalement aussi quel est le chemin qu'elle va décider de prendre dans une situation qui est relativement nuancée au sein même de la région latino-américaine.
Voilà l'analyse d'Élise Gadea, docteur en sociologie de l'IAL et chercheuse associée à l'IFEA, qui était ce matin notre invitée. Merci de votre écoute. L'information revient tout à l'heure à 13h. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.